Vous écoutez France Culture.
C'est question d'époque. Bonjour à tous, dans Questions d'époque aujourd'hui, comme tous les vendredis, c'est Place de la Toile, proposée par Thomas Baumgartner et Caroline Brouet. Bonjour Thomas.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Au sommaire de Place de la Toile ce matin, grand entretien avec Gérard Berry, titulaire de la chaire d'innovation technologique du Collège de France pour cette année et dont le cycle de cours se termine aujourd'hui par un grand colloque sur l'informatique et la bioinformatique. En fin d'émission, on retrouvera la chronique de Bruno Patineau. Bruno qui nous parlera d'une expérience lancée à Strasbourg sur 250 écoliers qui vont passer tout simplement 10 jours sans aucun écran.
Et pour commencer l'émission, Caroline, une suite aux grandes questions qu'on avait déjà abordées ici dans Place de la Toile autour du livre et de la toile.
Oui, une décision de justice dans l'actualité cette semaine, puisque le 6 mai dernier, la Cour de cassation a rendu un arrêt concernant les frais de port des livres vendus sur Internet. Un arrêt qui inquiète aussi bien les libraires que certains avocats. On est en ligne avec Isabelle Weckstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate, spécialiste en droit de la concurrence et des médias, et vous faites partie de ces juristes inquiets de la décision de la Cour de cassation. Alors déjà, en un mot, est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits et nous expliquer ce qui se joue dans cette affaire ?
Alors, il y a deux points qui ont été tranchés par la Cour de cassation. L'un, d'ailleurs, en faveur de la librairie indépendante et l'autre contre, ce qui rend encore plus étonnant la décision, puisque la Cour suprême a estimé que la pratique qui consiste à offrir des rabais sur les prix de livres sous forme de bons d'achat était illicite et contraire à la loi Lang. C'est ce que le syndicat de la librairie française soutenait et de ce point de vue, il a obtenu gain de cause. En revanche, la Cour de cassation a jugé que la livraison, la gratuité des frais de port ne constituait pas une prime prohibée par la loi.
Donc Isabelle Weckstein, il y a quand même une chose à dire, c'est que là, il y a effectivement des décisions de la Cour de cassation qui ont été rendues, mais l'affaire n'est pas terminée par derrière. La Cour d'appel doit encore statuer. Donc les libraires en ligne qui se félicitent, qui se frottent les mains par rapport à ces décisions-là, se réjouissent peut-être un petit peu trop tôt ?
Absolument. D'abord, il y a une décision de la Cour de cassation, celle qui a été rendue le 6 mai dernier. Il y a des décisions contraires des juridictions de première instance et d'appel. Et comme c'est un arrêt de cassation avec un renvoi, cela veut dire que la Cour d'appel, autrement composée, va être amenée à statuer de nouveau sur cette question, en tout cas sur la question qui n'a pas encore été tranchée de manière définitive, c'est-à-dire est-ce que la livraison franco de port qui génère une vente à perte et une concurrence déloyale est ou non une prime prohibée par la loi. Donc, je dirais que les principaux acteurs de la vente de livres sur Internet ne devraient pas se réjouir trop vite.
Alors, d'un côté, on a les libraires en ligne qui se réjouissent peut-être un peu vite. De l'autre côté, est-ce qu'on a les libraires indépendants qui, eux, s'inquiètent un peu vite, Isabelle Weckstein ?
Je pense qu'ils ne s'inquiètent pas, ils ne s'inquiètent pas un peu vite parce que lorsqu'on regarde la décision qui avait été rendue contre Amazon dans un procès qui est toujours en cours avec Amazon qui avait été condamné à payer des dommages et intérêts, une astreinte assez lourde, Amazon préférait ne pas respecter la décision et attendre, quitte à être sanctionné très lourdement par l'astreinte, étant prêt à résister pour, je pense, conforter son monopole. Bon, entre-temps, il y a une décision qui a suspendu cette astreinte, mais je pense qu'on a de quoi s'inquiéter parce que c'est aujourd'hui que les parts de marché de la vente de livres sur Internet se répartissent. C'est maintenant que tout se joue. Donc celui qui est exclu du marché ne va pas y revenir. Et je pense que quand on est des acteurs, des mastodontes, et qu'aujourd'hui on pratique la gratuité des frais de port, eh bien demain on pourra dicter ces lois sur ce marché après avoir éliminé toute la librairie indépendante.
Oui, mais il faut dire que le livre représente, pardon Thomas, 42% du commerce en ligne du bien culturel.
Est-ce que, Isabelle Wechstein, est-ce que la librairie, à cette occasion-là, la librairie indépendante, n'a pas intérêt à faire valoir, je ne sais pas, un avantage incompressible par rapport à tout ce qui est librairie en ligne, c'est-à-dire quand on est une librairie réelle, indépendante ou pas d'ailleurs, mais on n'a pas de question de frais de port à se poser par rapport aux clients, puisqu'on a le livre qu'on peut proposer tout de suite. Donc il y a quelque chose à jouer. Là, on a parlé ici même dans Place de la Toile d'un site qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Place des Libraires. Donc là, on est en ligne, c'est un site internet, mais qui vous dit, en tant que client derrière votre écran, si votre librairie en bas de chez vous ou pas loin a le livre que vous cherchez. Est-ce que ce n'est pas des solutions de ce type-là qu'il faut chercher maintenant ?
C'est-à-dire de se déplacer chez son libraire ?
Se déplacer chez son libraire ou voir en ligne si notre libraire
absolument,
a le livre qu'on cherche.
Absolument, je pense que la grosse difficulté, c'est que sur Internet, on va faire croire, en raison du caractère virtuel de la librairie, que tout est là, même quand tout n'est pas là, tandis que la librairie physique, elle, va proposer ce qu'elle a effectivement. Et si on se sert du site Internet pour aller voir s'il y a ce qu'on cherche dans la librairie et qu'on s'y déplace, c'est une manière de régler le problème et de ne pas se retrouver. Parce que ce qui se joue, en fait, là, c'est quand même la question de la diversité. Alors, je sais bien que la diversité, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est quand même la diversité, la pluralité et la loi sur le prix imposé. Il n'y a aucune raison que Internet soit considéré comme un marché différent pour l'application de la loi Lang qui a fait ses preuves et qui a permis de préserver un réseau de librairies indépendantes à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres pays comme en Angleterre, par exemple. Donc ce qui se joue, c'est de maintenir une diversité qui ne pourra pas être maintenue pour le consommateur qui est peut-être séduit par cette démarche aujourd'hui mais qui sera berné à terme. Parce que si on laisse les plus gros acteurs agir, dicter leurs règles pour peut-être une économie immédiate, mais une diminution de l'offre et in fine probablement un coût supérieur, eh bien il n'y aura ni diversité ni garantie du prix imposé.
Isabelle Wechstein, est-ce qu'on peut dire, on constate là donc que la Cour de cassation a donc rendu une décision, est-ce qu'on peut dire que parfois la Cour de cassation peut être sensible à des modes ou des époques, est-ce que idéologiquement, est-ce que la Cour de cassation peut être marquée économiquement, idéologiquement ?
Piège. Je crois que la Cour de cassation, elle évolue avec son temps, et puis la Cour de cassation, elle peut aussi opérer des revirements, mais je pense que considérer que l'environnement numérique nécessite une entorse à la loi, c'est une mauvaise prise en compte des enjeux économiques.
Comment voyez-vous, Isabelle Wechstein, les suites de cette affaire ?
Je pense que les libraires vont continuer à se battre. Il y a d'autres décisions qui arrivent. Il y a la cour de renvoi et j'ai bon espoir qu'on arrive à modifier, à faire changer, à considérer que la gratuité des frais de port est véritablement une violation de la loi.
Isabelle Wechstein, merci beaucoup.
Le train de l'avenir, c'est la micro-informatique.
Devinette, quel est le point commun entre le lambda calcul, la sémantique formelle des langages de programmation, la programmation parallèle et temps réel et la conception assistée par ordinateur de circuits intégrés ? Eh bien, c'est un homme. Et cet homme est notre invité ce matin, ancien élève de l'École polytechnique et du Corps des mines, chercheur et industriel en informatique, membre des Académies des sciences et des technologies, chercheur à l'Institut national de la recherche en informatique et automatique INRIA et à l'École supérieure des mines de Paris de 1970 à 2000, actuellement directeur scientifique d'Esterel Technologies et titulaire de la chaire d'innovation technologique du Collège de France pour cette année 2007-2008 sur le thème « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?». Cet homme, c'est vous, Gérard Berry. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Le numérique au sein du Collège de France, même pour seulement quelques mois cette fois, eh bien, si bien la marque quelque chose change, on peut dire qu'il était temps que le Collège de France donne la parole à un scientifique sur ces choses-là, sous cet angle-là, d'autant que le Collège de France permet désormais par son site de suivre les conférences des titulaires, définitifs ou pas, des chaires du collèges, y compris les vôtres et celles que vous avez organisées, que vous organisez encore aujourd'hui, Gérard Berry, parce qu'aujourd'hui même, vendredi, c'est donc la dernière de ces cours et de ces colloques sur le thème donc informatique et bioinformatique, Caroline le disait tout à l'heure. Une saison au Collège de France, voilà comment on a voulu intituler cette conversation dans Place de la Toile ce matin, une conversation forcément rétrospective. Il faut parler de ces quelques 5 mois où le numérique a donc eu droit de citer sur l'estrade de la vieille et vénérable maison le Collège de France, créé par François Ier en 1530, créé pour diffuser, je cite, le savoir en train de se faire. C'est le cas de le dire sur ce que vous avez fait pendant 5 mois et ce que vous continuez donc aujourd'hui à faire. Alors, première question, Gérard Berry, est-ce qu'il était temps, est-ce qu'il n'était pas un peu tard pour que le Collège de France s'ouvre aux questions numériques ?
Non, il n'est jamais trop tard, parce que ça dépend du point de vue qu'on prend. Ici, le Collège de France, c'est une, par définition, des chaires extrêmement libres. Et la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt, son but, c'est de mettre en relation science, technologie, industrie, etc. Et donc, on peut avoir un point de vue différent de tout ce qui se fait ailleurs. On entend parler de numérique absolument partout, mais on entend beaucoup parler soit de choses qui sont pas... qui sont des conséquences du numérique, comme par exemple les relations sur le livre ou toutes les professions qui sont complètement bouleversées. Hein, le numérique est une vraie révolution au sens où il met tout à l'envers. Et vous avez parlé des livres, il y a des tas d'autres sujets qui sont tous très importants. Et au Collège de France, moi j'essayais de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire d'expliquer aux gens de quoi il s'agit. Parce que c'est finalement la chose la moins partagée du monde, c'est le numérique, en fait, c'est quoi ? Pourquoi c'est là ? Pourquoi ça révolutionne tout ? Et donc, le cours, ça a été fait d'abord d'une leçon inaugurale qui s'appelle « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?» et donc publié en texte chez Fayard et disponible en vidéo sur le site du collège. Et cette leçon cherchait à s'adresser à tout public. Alors en fait, s'adresser à tout public, ça veut dire parler à des gens différents en même temps de la même chose, mais en leur donnant différents éclairages simultanément. Donc il y avait les gens qui connaissaient ça, où je voulais montrer qu'on pouvait expliquer ça simplement à tout le monde, et les gens qui ne connaissaient pas ça, qui eux prenaient des explications peut-être un peu nouvelles pour eux. Et ça consiste à ouvrir le capot, à dire mais en fait pourquoi ce monde numérique bouleverse autant de choses ? D'abord c'est quoi numériser le monde ?
D'ailleurs, donc ça c'était la première chose. Ouvrir le capot, c'est quoi numériser le monde ? Une des premières, je crois que la première leçon après la leçon inaugurale concernait le calcul, les algorithmes.
L'algorithmique, c'est très ancien, ça a commencé bien avant les mathématiques, ça a commencé par apprendre à calculer les additions, les multiplications et tout. On pense qu'on a inventé des choses en Europe, mais c'est pas vrai du tout, ça a été inventé en Inde, et ça a été transmis par les Arabes, donc Al-Khwarizmi, qui a donné son nom à algorithme. Algorithme, c'est une latinisation de Al-Khwarizmi, qui était un grand savant, qui a aussi donné son nom à autre chose. Il a écrit un très beau traité de mathématiques qui s'appelle Al-Jabr, qui a donné son nom à algèbre. Et donc c'est ancien, c'est dans les années 800 et quelques, et ça date aussi d'avant. Donc l'algorithmique, c'est ancien, mais maintenant c'est devenu possible par l'ordinateur. Avant, l'idée de calcul était humaine, et maintenant l'idée de calcul est très généralisée par les ordinateurs.
Gérard Berry, commencer par l'algorithmie, c'était en quelque sorte remonter aux sources de l'informatique ou du numérique ?
Alors, c'est l'algorithmique qui est la grande source de l'informatique, puisque l'informatique, c'est avant tout le calcul automatique. Et donc, calculer, qu'est-ce que c'est que calculer ? Et ça, c'est connu depuis bien avant, même ce que c'est que démontrer, puisque les démonstrations mathématiques, ça date des Grecs, mais le calcul, ça date d'avant. Et par exemple, Gilles Dowek, qui a eu le grand prix de l'Académie française pour son livre « Les métamorphoses du calcul », est venu expliquer ça dans un autre cours, d'ailleurs. Donc l'algorithmique, oui, c'est le premier des fondements. Il y a trois fondements en informatique. Il y a la théorie de l'information, qui explique ce que veut dire numériser, comment il faut le faire et, par exemple, comment transmettre sur une ligne ADSL téléphonique, comment transmettre de l'information numérique. Ensuite, il y a l'algorithmique qui consiste à calculer et puis il y a la théorie de la programmation qui consiste à implanter sur machine les algorithmes de façon à ce qu'ils marchent.
Et justement, Gérard Berry, on retrouve là les premiers thèmes des premiers colloques du début de l'année que vous avez organisés donc au Collège de France. On sent bien qu'il y a une progression. Et même quand on vous entend et le côté pédagogique ressort immédiatement, il y avait besoin de cette progression logique. Le langage de la programmation, c'est arrivé assez rapidement, vous venez d'en parler. Oui. Vous passez au bug à un moment donné, vous parlez de l'innovation. On sent que véritablement, on passe une marche à chaque colloque.
On passe une marche parce que, ben oui, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. D'abord, l'algorithmique, bon, ça s'explique, on a appris à faire des additions, des multiplications, mais je montrais des algorithmes bien plus intéressants, comme comment les poissons s'organisent quand ils se cachent dans le sable, qui sont des très beaux algorithmes de géométrie, etc. Et ensuite, le deuxième, c'était les circuits électroniques, qui sont eux-mêmes fabriqués avec des algorithmes. L'informatique passe beaucoup de temps à s'occuper d'elle-même, et donc les circuits qu'on appelle micro-ordinateurs, ça c'est un paradoxe extrêmement rigolo. Un micro-ordinateur a maintenant plusieurs milliards de composants. Il en a beaucoup plus que ce qu'on appelait un méga-ordinateur avant. Donc ce qui est micro, c'est la dimension, mais la complexité est complètement méga. Et l'industrie de la fabrication des circuits, qui fabrique des objets qui pèsent zéro, est l'industrie la plus lourde du monde quasiment à l'heure actuelle.
D'ailleurs, vous dites dans votre livre, dans votre leçon inaugurale donc, qui est publiée chez Fayard, pourquoi et comment le monde devient numérique, qu'une partie des progrès des ordinateurs est due aussi au progrès de la gravure, tout simplement, pour les microprocesseurs.
Il y a deux sortes de progrès. Le premier, c'est le progrès de la technologie, ce qu'on appelle la loi de Moore, qui dit que le nombre de transistors double tous les 18 mois sur un circuit et qui reste vrai et qui a fait qu'à l'heure actuelle, un circuit peut avoir 2 milliards de transistors, ce qui est quand même gigantesque. Il en avait 5000 au début ou 1000 ou 300, ça dépendait. Mais cette loi est exponentielle et c'est complètement unique dans l'histoire. Et
Elle continue, la loi de Moore, aujourd'hui.
Elle continue. Ah, ce n'est pas une loi, a priori, c'est une loi a posteriori. Ouais. C'est-à-dire que l'industrie s'organise pour ça. C'est-à-dire que les machines qu'on fabrique maintenant pour fabriquer les circuits dans 3 ans respectent cette loi. Ce n'est pas une loi qu'on constate après coup, c'est une loi qui organise l'industrie future. Et donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est l'architecture, les progrès énormes en architecture qui fait qu'on sait faire quelque chose avec 1 milliard de transistors. On commence à être aux limites, c'est-à-dire que c'est plutôt les hommes qui sont pénalisés que les transistors pour l'instant.
Gérard Berry, j'aimerais qu'on lève tout de suite une confusion, parce que vous disiez que c'est important de s'adresser au plus grand nombre, hein, au grand public. Puis dans vos séries de cours, on a bien vu qu'il y avait un certain nombre de gens tout à fait néophytes en la matière qui venaient. Levons donc une confusion. On entend parler tantôt d'informatique, tantôt de numérique. On a tendance, dites-vous, à confondre souvent ordinateur et informatique. Et je rajouterai donc un troisième terme, le numérique. Est-ce que, pour bien que ce soit clair pour nos auditeurs qui ne sont pas spécialistes, vous pouvez nous distinguer ces termes.
Le sens des mots. Oui, on a la chance en français d'avoir deux beaux mots, numérique et informatique. Les Anglais ont moins de chance, ils ont digital et computer science. Alors digital, ça veut dire compter avec les doigts, 0, 1. Numérique, il y a déjà une idée en plus, qui est l'idée de nombre. Hein. Quand on écrit 47, on n'écrit pas 4, 7, on écrit 47. Donc numérique, ça veut dire coder toute information par des nombres. Alors ça, c'est la grande révolution. Parce que avant, le texte, c'était sur du papier, le son, c'était sur du vinyle, et on ne mettait pas un bouquin sur un tourne-disque. Ça ne marchait pas. Maintenant, tout est codé pareil. Les forces, le texte, la vidéo, tout ça, c'est des 0 et des 1. Et l'énorme avantage, c'est qu'on peut appliquer là-dessus deux sortes d'algorithmes. Des algorithmes dits génériques. Par exemple, transporter des 0 et des 1 sur Internet. Votre fournisseur d'accès ne fait absolument pas attention à savoir si vous transformez de la vidéo, etc. Pour lui, c'est la même chose. Et donc ça, c'est ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein. Et maintenant, appliquer des algorithmes spécifiques, par exemple comprimer. Le fameux MP3 ou le MPEG de la télévision sont des algorithmes mathématiques très compliqués, mais qui s'expliquent et qui font appel aux propriétés de l'œil et de l'oreille de compression. Et par exemple, c'est ça qui fait que la TNT est de bien meilleure qualité, avec beaucoup plus de chaînes sur le même nombre de canaux et de bien meilleure qualité. C'est que l'image est comprimée, ce qu'on ne pouvait absolument pas faire avant dans ce qu'on appelle analogique.
Gérard Berry, depuis le 17 janvier et cette leçon inaugurale, il y a eu, je crois, plus d'une vingtaine de rendez-vous en tout, si on compte à la fois vos leçons, les cours et vos invités, j'allais dire, les gens que vous faites venir au Collège de France. Tout simplement, on parle d'éducation, de pédagogie, d'explication. Qui est venu vous voir? Quels sont les retours que vous avez eus? Et puis, je disais tout à l'heure, vous l'aviez aussi, que les vidéos des cours sont présents en ligne pour la plupart. Il y a du son, il y a des documents écrits. Enfin, celui qui veut avoir ou celle qui veut avoir les cours en main ou devant les yeux peut les avoir. Alors, quels sont les retours et qui est venu vous voir?
Alors, il y a deux genres d'intervenants extérieurs. Il y a des spectateurs et des gens qui sont venus faire les conférences aussi. Donc, si les spectateurs, c'est très difficile à savoir. Le public traditionnel du Collège de France, où il y a beaucoup de gens souvent retraités qui viennent se renseigner sur le sujet. Il y a aussi beaucoup, il y a aussi les étudiants qui signaient, qui me faisaient signer le papier comme quoi ils étaient venus, qui étaient donc, le cours était à leur programme. Il y avait des professeurs qui voulaient voir comment on faisait avec nos intervenants pour enseigner ça. Parce que s'il y a un grand manque d'explication de vraiment ce que c'est que le numérique et tout ce qui est attaché avec, c'est aussi parce que les informaticiens ne l'ont pas tout à fait assez fait. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ce type de pédagogie et qui sont venus voir comment on faisait cette pédagogie. On l'a fait sur des tas de sujets. Par exemple, qu'est-ce que la photo numérique? Il y avait un, Il y avait un séminaire par le créateur d'une société française qui s'appelle DxO, qui fait des logiciels fantastiques pour faire de la photo. Et par exemple, montrer que la photo numérique, ce n'est pas seulement comme la photo argentique, c'est une révolution de l'optique. Il y avait des gens qui venaient expliquer, Stéphane Malin dans le cas précis, qui venaient expliquer qu'est-ce que c'est que la télévision numérique et pourquoi c'est un giga-ordinateur. Pour faire une belle image de télévision numérique, haute définition, il faut plusieurs milliers de milliards d'opérations par seconde. Alors, c'est très rigolo, les gens ne savent pas ça du tout, mais quand on le sait, on comprend pourquoi, et comprendre pourquoi, dans la vie, ça ouvre. Il y a beaucoup de gens qui sont en situation de dépendance par rapport au numérique. Alors, la dépendance, c'est normal quand on ne comprend pas. Il y a beaucoup de gens qui disent « je ne m'y suis pas mis ». Le numérique, je ne m'y suis pas mis, ça me fait peur. Bon, ça, c'est une situation de dépendance. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent « le numérique, c'est facile », mais c'est une autre situation de dépendance dans les enfants. C'était très intéressant, dans une autre émission avec Jean Levray, il avait posé la question à un enfant, est-ce qu'un ordinateur, c'est un télé... Il avait demandé d'abord, est-ce que l'informatique, c'est facile ? L'enfant avait dit oui. Et qu'est-ce que tu fais ? Ben, je vois mon papa quand il est au Chili et on se voit sur l'écran, c'est vraiment bien. Et un téléphone, est-ce que c'est un ordinateur ? Non, parce que j'entends mon papa, mais je ne le vois pas. Donc ça, c'est clairement un déficit de compréhension tout à fait normal, mais le déficit de compréhension, c'est tout à fait dangereux. Donc oui, un téléphone, c'est exactement la même chose qu'un ordinateur. Et ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'ordinateur devient, n'est plus du tout l'objet dominant. La plupart des ordinateurs sont dans les objets, et il est certain qu'il y aura des milliers de milliards d'objets informatiques qui n'auront pas d'écran, pas de clavier.
Cette question-là du réseau omniprésent mais invisible, on va en parler dans un instant, c'est une des directions d'un des cours que vous avez donné, que vous avez organisé au Collège de France. Mais en parlant du déficit de maîtrise des numériques, ce que vous dites aussi, c'est que ça crée quoi ? Ça crée des bugs. Il y a eu un cours sur les bugs, et les bugs, entre autres, vous dites, ça coûte en fait très cher.
Les bugs, ça coûte extrêmement cher, ça coûte 100 milliards de dollars par an à l'industrie, hein. Je ne compte pas le coût aux gens, qui lui n'est pas mesuré. Ça coûte extrêmement cher, c'est un peu intrinsèque à l'informatique, c'est-à-dire que le bug, ça vient avec l'informatique, et j'explique que...
C'est pourtant une erreur humaine, un bug.
Alors, un bug est une erreur humaine, c'est-à-dire que la machine exécute des milliards d'instructions par seconde avec une fidélité totale, et si on lui dit de tourner à gauche au mauvais endroit, elle y va, et elle continue, et elle est partie pour n'importe où. Et comme un programme, ça va faire des milliards et des milliards d'instructions, c'est pas très dur d'en faire une fausse sur le trajet. Et il y a un effet extraordinaire d'amplification qui fait que dès qu'on a pris la mauvaise route, la machine n'ayant aucun sens de l'humour, aucune logique, aucun affect, n'a aucun moyen de s'apercevoir. En fait, elle n'a pas d'identité, donc elle ne peut pas s'apercevoir. Et elle continue n'importe où et ça vous crache votre machine. Ça, c'est pas très grave, mais ça peut vous cracher d'autres choses.
Gérard Berry, restons un instant, si vous le voulez bien, sur les questions de pédagogie que vous avez amorcées il y a une minute. Vous constatiez dans la leçon inaugurale « Pourquoi et comment le monde devient numérique ?» un manque de culture numérique en France. Et vous disiez, c'est étonnant parce que les innovations technologiques vont très vite. Hein. Le monde du numérique, c'est un monde d'innovation ultra rapide. Et le public est souvent surpris par ces innovations. Est-ce que c'est propre à la France ?
Alors, il y a plusieurs choses dans la question. D'abord, pourquoi les gens sont surpris ? Parce qu'effectivement, tous les progrès, tous les impacts, qui ne sont pas forcément que des progrès du numérique, apparaissent tous comme disjoints les uns des autres et venir en tas. Hein, il y a le téléphone numérique, puis après, il y a la télévision numérique, et puis après, il y a le GPS. Et en fait, ce que j'essaye de montrer, c'est que tout ça, ça obéit à une seule logique et qu'il y a des principes simples. C'est un peu comme la physique. La physique, il n'y a pas un million de principes en physique, bien qu'il y ait un million d'applications de la physique. Et donc, quand on comprend mieux les principes, on peut se faire un schéma mental beaucoup plus adapté. Alors, dans l'enseignement français non supérieur, ce genre de choses n'est pas du tout expliqué. Et donc, les enfants sont lâchés en face du numérique et eux, ils apprennent ça comme ils apprennent à nager. Plus facilement qu'ils apprennent à nager d'ailleurs. Mais ils n'apprennent pas du tout de quoi il s'agit. Ils apprennent à s'en servir et puis à le subir d'une certaine façon aussi. Donc, il n'y a pas d'explication. Alors, on explique pourtant des tas d'autres choses. On explique les mathématiques, on explique la biologie aux enfants, mais on n'explique pas du tout ça. Je pense que ça, c'est un gros problème. Et dans le public, c'est un peu la même chose. Il y a un gros déficit d'explication. Et très souvent, c'est associé à quelque chose de très important. Très souvent, en France, on dit il faut qu'on rattrape notre retard d'équipement en Internet, c'est un peu fait, il faut qu'on rattrape des retards partout. Mais le monde actuel, ça ne consiste pas à rattraper des retards. Si on veut être des acteurs du monde, on n'est pas en train de rattraper son retard, on est en train d'accroître son avance ou on est en train de participer aux gens qui sont dans l'échappée de devant. Et ça, je pense que c'est très différent aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, ils ne sont pas du tout frileux au niveau des études supérieures. Dans les écoles et lycées, c'est pas clair dans le monde. On n'a pas fait d'analyse, c'est pas clair. Mais par contre, par exemple, dans l'industrie, on a été relativement frileux en Europe en général, en France aussi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français à l'étranger qui ont inventé des grandes choses. Le numéro 2 d'Apple est un Français. Un des co-inventeurs du moteur de recherche est français, mais ils étaient en Amérique.
Mais là, il y a deux choses, en fait, dans ce que vous dites, Gérard Berry. Il y a à la fois, effectivement, la question d'innover et de soutenir peut-être des individualités. Puis il y a la question, évidemment, du retard peut-être des usages ou de l'appréhension du public par rapport au numérique.
Oui, qu'est-ce qu'on doit apprendre ? Il n'y a pas que l'appréhension du public qui compte. Par exemple, en Europe et en France, on est fort dans le domaine dans lequel je travaille dans ma société STRL, technologie, qui est le système embarqué. Par exemple, Airbus a fait des avions informatiques bien avant les Américains.
Joseph Sifakis, qui était par téléphone ici même en janvier, qui a eu le prix Turing, qui était, je crois, absolument, le seul Français à l'avoir. Le prix Turing travaille
sur la preuve de programme de ce type, et on a travaillé ensemble, et ma société commercialise des choses qui ont été faites dans le laboratoire où il travaillait lui aussi. Et donc on connaît bien. Et ça, c'est des domaines qui ne sont pas connus du grand public. Mais le grand public ne sait pas forcément qu'un train ou un avion ou un métro, il n'y a pas vraiment de conducteur et que c'est conduit informatiquement.
Faut pas le dire trop fort.
Et non, il faut le dire très fort, justement. Pour une fois qu'on a une fierté technique, il faut le dire très fort. Le monde Internet polarise trop à l'heure actuelle. Et il y a une confusion dont je sais que vous ne la partagez pas, mais tout le monde pense que l'intégralité de ce qui existe sur Internet a été tapée par des doigts humains, et que c'est des blogs et que c'est des choses comme ça, alors que les nombres dans Internet, les objets vont devenir majoritaires. Et c'est quelque chose qui va complètement changer.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que derrière le numérique, derrière Internet dont on parle tant, il y a quand même une science qui est la science informatique. Et vous voulez la rappeler au effort, Gérard Berry.
Alors il y a une science qui est la science informatique, qui est une science qui est une fille naturelle des mathématiques, mais qui a évolué maintenant de façon complètement autonome. Et une science qui, effectivement, n'est pas véritablement reconnue en tant que science depuis très longtemps et pas partout. Et donc, il faut le dire très fort, oui, cette science informatique est une discipline très particulière. Et dans l'enseignement, on a un gros problème, c'est que c'est très difficile d'introduire une nouvelle discipline dans l'enseignement lycée, collège, etc.
Qu'est-ce qu'il faudrait enseigner, selon vous, Gérard Berry?
Est-ce qu'il faut enseigner le doute par rapport aux technologies?
Alors, d'abord, il faut enseigner la compréhension des phénomènes du monde. Ça, c'est la première chose. On apprend en physique pourquoi les corps tombent. Hein, on pourrait apprendre en mathématiques. On apprend en mathématiques comment calculer la surface d'un champ. Mais en informatique, on peut comprendre qu'est-ce que c'est calculer la surface d'une image. Au lieu d'un champ, il n'y a plus de champ. Moi, j'ai beaucoup enseigné aux petits, à l'école des pouces verts, à l'école Montessori des pouces verts. Et j'ai enseigné aux 6-12 ans et je leur racontais. Ils avaient appris l'addition et la multiplication. Et moi, je leur montrais qu'avec l'addition et la multiplication, on fait des belles photos ou des photos moches. Et ça les intéressait énormément. Je leur apprenais comment marchait un téléphone portable. Il n'y a pas un adulte qui sait comment marche un téléphone portable, mais c'est extrêmement formateur parce que tous les principes du numérique sont vraiment dans le téléphone portable. Et expliquer ça, je faisais un peu des choses de type leçon de choses, un peu scientifique. Et ça, c'est tout à fait faisable, mais simplement, les professeurs n'ont jamais été formés à ça encore. La question n'a pas été posée et l'inertie du système est grande.
Donc, enseigner l'informatique, Gérard Berry, ça ne veut pas seulement dire installer un élève face à un ordinateur.
Ah, ça peut être même... ça dépend comment c'est fait. Non,
Aujourd'hui, ils sont 8 hein, par ordinateur.
Voilà, alors mettre un élève devant un ordinateur et lui apprendre à faire un traitement de texte, ça n'a aucun intérêt au niveau de l'informatique, c'est un intérêt au niveau de la vie de tous les jours. Mais en général, c'est plutôt les élèves qui enseignent ça à leurs profs, donc ce n'est pas tellement un problème de ce côté-là. Enseigner l'informatique, c'est essayer de dire qu'est-ce que c'est. Par exemple, on peut expliquer ce que c'est qu'un moteur de recherche. C'est extrêmement frappant qu'énormément de gens, y compris des scientifiques, se servent de moteurs de recherche tous les jours, et quand on leur demande qu'est-ce que c'est, ils n'en ont pas la moindre idée. Alors que sur d'autres domaines, ils ont l'idée d'avoir l'idée de des choses dont ils se servent. Ils ont l'idée de savoir qu'est-ce que c'est qu'une voiture. Mais un moteur de recherche, non, ça a l'air d'être un objet magique, alors que c'est un objet totalement intéressant.
Vous dites que les enfants baignent dedans d'une certaine façon. Oui. On va bientôt faire une émission sur ce concept-là de natif numérique pour savoir oui. si ça recouvre quelque chose, une quelconque réalité. On a reçu ici, il y a quelques mois, Milad Douéhi. Milad Douéhi, dans son livre sur la grande conversion numérique, explique que les enfants, certes, savent pratiquer l'informatique, savent ce que c'est qu'aller sur Internet, mais en fait, ils manquent considérablement de tout ce qui va derrière, c'est-à-dire l'histoire, la contextualisation, la culture qui va derrière. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut enseigner, Gérard?
Oui, alors ça, c'est, je partage cette conclusion. Ce livre explique ça bien. Il ne suffit pas de savoir se servir des choses pour... Et par exemple, un des problèmes de savoir si on veut être dans les créateurs du monde. Si on veut être dans les créateurs du monde, il ne suffit pas de savoir s'en servir. Il faut savoir le créer. Et ça, ce n'est pas la même chose. C'est comme regarder une peinture ou peindre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc oui, il faut dépasser ça. Et oui, il faut montrer l'essence de ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, ce n'est pas tellement compliqué si on le prend bien.
Paranoid, Android, OK Computer, c'est Radiohead. Et justement, ça va nous permettre, Gérard Berry, pour continuer notre conversation, d'évoquer quelque chose dont vous avez déjà un petit peu parlé depuis le début de cette émission, qui est l'Internet des objets, le réseau des objets. Aujourd'hui, il y a plus d'objets en ligne que d'individus ?
Aujourd'hui, je ne sais pas, mais ça va arriver assez vite. Hein. Les lois du numérique sont rapides. Alors, quel est l'intérêt des objets en ligne? C'est une question qu'on peut se poser.
Ça veut dire quoi, surtout, déjà, les objets en ligne?
Alors, on va commencer par des choses très faciles. Par exemple, si on reprend le vieux mythe de la domotique, qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que dans la domotique... Mettons,
la domotique, c'est les robots à la maison.
Non, c'est même le réglage du chauffage ou des trucs aussi bêtes que ça, des choses aussi bêtes que ça. Ça n'a jamais existé parce qu'il y avait des appareils dédiés à chaque spécificité. Vous achetez un régleur de chauffage avec un mode d'emploi incompréhensible, des boutons qu'on n'arrive absolument pas à régler. Et ça n'a aucune raison d'exister. Par exemple, la gestion de l'énergie d'une maison, c'est un problème sérieux en économie d'énergie. Il n'y a aucune raison qu'une maison chauffe pendant qu'on n'est pas là. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas lui envoyer un courrier électronique pour lui dire qu'on arrive. Ça, c'est un exemple tout petit. Maintenant, regardons beaucoup plus sérieusement la circulation automobile. Les voitures vont se parler pour savoir où il y a des embouteillages, etc. Ça commence à se faire à Singapour, à Sydney. Ce n'est pas directement les voitures qui se parlent, mais tout est analysé et la circulation est régulée de façon assez très impressionnante. Ça évite les embouteillages, etc.
C'est ça qu'on appelle la métrologie ?
Non, la métrologie, c'est la science de la mesure. Hein. C'est autre chose. Ça, c'est de la physique, c'est la science de comment on mesure les mètres et tout ça. Donc ça, c'est vraiment les discussions entre voitures. Les voitures et la route peuvent discuter pour savoir l'état des infrastructures, pour les anti-collisions, etc. Ça se fait déjà dans les avions. Les avions se parlent en l'air pour savoir, pour aider les problèmes d'anti-collision. Les trains se parlent et les trains se parlent avec la voix. Et tout ça, c'est fait jusqu'à maintenant avec des méthodes assez spécifiques à chaque objet. Mais ça va être unifié par... Internet, les nouveaux adressages. Dans l'IPv6, chaque objet va avoir son adresse.
Dans
l'IPv6, les nouveaux systèmes d'adressage sur Internet, chaque objet aura une adresse 128 bits, donc on pourra adresser plus qu'il y a d'objets, plus qu'il y a d'atomes dans l'univers, ou à peu près pareil.
C'est comme de changer de manière d'ajouter deux numéros sur un numéro de téléphone, ça permet d'avoir plus de gens qui ont le téléphone.
Oui.
Là, on a permis d'avoir plus d'adresses.
Oui, et puis en visant vraiment large. C'est-à-dire que chaque objet, alors ça a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que chaque objet sera totalement identifié. On pourra vraiment. L'inconvénient, c'est qu'il y a des choses absolument perverses possibles. Par exemple, d'avoir des téléphones portables qui disent à tout moment où est son enfant, ce qui paraît rassurer quelques parents, mais est un véritable désastre pour l'éducation des enfants. Il suffit de se rappeler de ce que c'est que d'être enfant par rapport à ses parents pour comprendre que l'apprentissage de l'autonomie, c'est la première chose de l'éducation et que ça, ça ne va pas aller avec.
Là, on le construit, le paranoïde Android.
Voilà, voilà. Donc, des objets, presque tous les objets pourront devenir actifs.
Et donc là, vous nous parlez d'objets qui parlent à d'autres objets. Et donc oui. Là, on entre dans une ère où les objets vont parler aux individus.
Alors, les objets peuvent parler entre eux ou parler aux individus. Exemple d'objets qui parlent entre eux, la surveillance écologique, surveillance des forêts. D'avoir des capteurs d'incendie qui peuvent être, par exemple, ça se fait, ça, largué par avion, totalement autonome, de tout petits objets qui tombent dans la forêt, qui restent quelque part et qui vont détecter la chaleur et qui vont se parler de temps en temps pour savoir s'ils sont en vie, pour établir des réseaux dynamiquement entre eux sans que personne s'en occupe et puis prévenir s'il se passe quelque chose dans un incendie. Ce genre de choses peut aller extrêmement loin, et dans le bon et dans le mauvais, bien entendu, et ne prévenir que quand il y a besoin.
Gérard Berry, le numérique était déjà partout, hein, c'est ce que vous disiez au début de votre leçon inaugurale, et je pense que c'est ce que vous pouvez dire à la fin de votre année de
oui.
cours. Le numérique est partout. Est-ce qu'aujourd'hui, le numérique, du coup, c'est ce qui est invisible, puisque ça va être dans tous les objets ?
Oui, il va y en avoir dans beaucoup, beaucoup d'objets. Il y a beaucoup d'objets qui sont numériques. Déjà, tout l'audiovisuel est passé numérique. Si vous regardez les transports, c'est passé entièrement numérique. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus efficace et moins cher quand c'est bien fait et quand on sait éradiquer les bugs. Attention à ça, c'est un problème très sérieux. Les prothèses médicales, on connaît bien les pacemakers. Hein. Il y a récemment une faculté américaine qui a montré qu'il pouvait prendre par radio le contrôle des pacemakers des gens.
Oui,
ça,
voilà,
c'est sérieux. Ça, c'est tout à fait sérieux. C'est bien qu'il l'ait trouvé, c'est bien qu'il l'ait divulgué, parce qu'on peut tuer quelqu'un comme ça, bien sûr. Et ça montre qu'il y a une faille dans le système. On parle des virus sur Internet, mais les virus dans les pacemakers, ben, ça peut très bien exister. Donc, les problèmes de sécurité. Donc, dans l'informatique ubiquitaire, il y a aussi, par exemple, la distribution de médicaments aux hommes. Il y a le suivi des dossiers médicaux, le suivi des personnes âgées, etc., qui commencent à exister, mais qui vont se généraliser parce que c'est simple, ça ne coûte pas cher et si c'est bien fait, c'est bien. Il y a aussi tous les dangers qui vont avec. Et je pense qu'il ne faut pas laisser faire que les informaticiens et vous interroger des avocats là-dessus. Et c'est une excellente idée. Le monde doit être très divers à s'occuper de ça.
Gérard Berry, on est en train là doucement de glisser sur finalement le thème de la conférence, des conférences qui ont lieu aujourd'hui, que vous organisez, qui vous organisez depuis ce matin. On va le dire, on a enregistré un petit peu avant pour que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Mais vous êtes au Collège de France depuis 9h30 ce matin. Et il y a déjà eu une conférence sur une sorte de parallèle des formes entre le système immunitaire et un système d'information. On est vraiment dans le bio-informatique.
Qui est le thème de votre colloque, donc informatique et bio-informatique.
Il y a deux parties dans le colloque. Il y a cet après-midi, vous pouvez venir encore si vous écoutez l'émission, où il y aura deux exposés. Sur la sécurité informatique au sens large, par Martine Abadi, qui est un grand chercheur américain totalement... il est argentin, lui, mais totalement francophone. Et puis, le web des objets, le web physique, par Alberto Sangiovanni Vincentelli, qui est un des grands créateurs du monde informatique. Et le matin, bioinformatique. Alors, pourquoi ? Parce qu'il me semble que la jonction de la biologie et de l'informatique devient un des grands sujets sur lesquels on a maintenant des choses à dire. Je ne ferai jamais assez de réclames pour le livre qui s'appelle « Les neurones de la lecture » par Stanislas Dehaene, qui explique comment on lit et qui est un livre qu'on peut voir comme un livre de biologie, comme un livre d'informatique, etc. Et la biologie s'occupe de molécules, mais s'occupe de plus en plus des transferts d'informations faits par ces molécules. Et le système immunitaire, j'ai vu un exposé de Philippe Kourinski, qui est professeur au Collège de France. Philippe Kourinski a parlé de l'immunologie, qu'on peut voir comme un processus extrêmement informatique. Et d'ailleurs, il y a d'autres avant qui l'avaient fait, comme François Jacob avait déjà expliqué ça comme ça. Et vu d'un informaticien, on peut un peu ignorer les molécules et comprendre les transferts d'informations qui se passent. De même, il y a un autre exposé de François Fage qui va expliquer comment des techniques que j'ai expliquées dans mon cours pour la preuve de correction des programmes embarqués, par exemple de conduite d'avion ou bien de conception de circuit, comment ça peut être utilisé pour l'étude des réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Ce qui est tout à fait surprenant. Et on assiste maintenant à des jonctions. Et puis Alexandre Pouget qui parlera de ce qu'on appelle neurosciences computationnelles, qui s'intéresse à savoir comment calcule notre cerveau. Et maintenant, on peut aller voir dans le cerveau, grâce à l'imagerie numérique, qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand on lit, qu'est-ce qui se passe quand on réfléchit. Alors, il y a des gens un peu exagérateurs qui disent « on voit la conscience ». Il ne faut pas exagérer dans le sensationnel, c'est une dérive très dangereuse qu'il y a beaucoup. J'ai vu la conscience, non pas du tout. On commence à comprendre comment marche le cerveau grâce à l'imagerie numérique et à le modéliser en tant que système d'information. Il y en a pour très longtemps, c'est un très grand sujet, très beau sujet.
Gérard Berry, on a ici de temps en temps à ce micro une de nos marraines qui est Véronique Kleck, qui s'occupe, qui fait partie de l'association, enfin du groupe Transversal Sciences et Culture. Là, ce que vous nous expliquez, c'est qu'on est dans le transversal Sciences et Culture. Enfin, les sciences s'ajoutent, se multiplient et se renforcent les unes les autres.
Exactement. Ça, c'est vraiment une grande révolution à l'heure actuelle et c'est merveilleux. Pendant très longtemps, on a entendu des gens dire « la physique, c'est fini ». Ça s'est dit, bon, ça s'est arrêté vite. Et maintenant, on est dans les sciences du compliqué. On n'est plus dans les sciences du simple. On a compris la chute des corps, on a compris comment les planètes tournaient. La mécanique quantique a complètement modifié la compréhension de tas de phénomènes. Mais maintenant, on s'attaque à des choses beaucoup plus compliquées. On s'attaque à la vie, on s'attaque au cerveau, à comprendre comment marche une cellule. C'est horriblement compliqué, on en a pour très longtemps. Mais ça devient... Le principe, c'est de prendre ces choses horriblement compliquées dans les détails, mais de les rendre simples dans les principes. Je pense que la science n'a jamais été aussi intéressante que maintenant, parce qu'elle est multiple. Et on ne peut plus être un grand spécialiste de ci ou un grand spécialiste de ça qui ne cause pas aux autres. C'est fini.
Gérard Berry, est-ce que les moyens alloués à cette recherche sont suffisants, en tout cas en France ?
Alors en France, dans la recherche numérique en général, et dans les moyens sont assez importants. On a des gros centres de recherche en France, et au CNRS et à l'INRIA, qui est un centre très puissant sur le plan mondial et très fort.
Dans lequel vous avez longtemps travaillé ?
Dans lequel j'ai longtemps travaillé, mais qui à l'heure actuelle a plus de 150 équipes de recherche à travers toute la France, est très connu au niveau international. La recherche n'est jamais stable, c'est-à-dire les moyens de la recherche sont toujours en question. Mais je pense que nous ne sommes pas mal placés, ce qui est très, à l'heure actuelle, contesté et contestable, et j'espère qu'il y aura des actions, c'est que le statut des chercheurs n'est pas très attirant, ni sur le plan financier, et il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger parce qu'on leur offre des conditions de travail bien meilleures. Il faut changer ça. En France, il y a la capacité intellectuelle, en Europe, il y a la capacité intellectuelle, la science est mondiale aussi. Je pense que nous avons la capacité de faire tout ça ou d'attaquer ces problèmes si nous continuons un effort qui a existé et si la carrière des chercheurs est revalorisée.
Mais alors que 30% des dépenses en recherche et développement dans le monde sont consacrées aux technologies, aux sciences et technologies de l'information et de la communication, qu'on appelle les STIC, 18% seulement sont consacrés à cette recherche en Europe.
Oui, ça c'est un chiffre.
On est quand même en retard,
chiffre de la communauté européenne. Alors attention, ça n'est pas que la science, ça c'est de la recherche et développement. Il y a aussi l'ensemble du développement. Et il est vrai que nous n'avons pas tellement de poids lourd de l'informatique, en Europe même, en France. Ils sont en Asie, ils sont aux États-Unis. Et il est vrai qu'en Asie ou aux États-Unis, la proportion de recherche dans les STIC est beaucoup, beaucoup plus grande. Et que si on regarde la création, tout ce qui a été créé récemment, beaucoup de choses qui ont été créées récemment, hormis certains domaines comme l'embarqué ou d'autres, ou la sécurité par exemple, où il y a des choses, ou la carte à puce, où la France était très forte, il est clair qu'il n'y a pas du tout le même mouvement. Les moteurs de recherche, tout le grand développement d'Internet et tout. Si le langage anglais domine Internet, c'est parce que c'est là qu'a été faite la création. Donc au lieu de se plaindre qu'il n'y a pas assez de mots français, eh bien faisons rentrer des mots français comme on l'a fait dans l'état d'autres domaines, pour ne citer que la cuisine. Qui n'est pas non plus un domaine négligeable du tout.
Gérard Berry, est-ce qu'on est là dans un domaine, le numérique au sens plus large, quelque chose qui touche, j'allais dire, au fantasme humain ? C'est-à-dire qu'on est dans le « qu'est-ce qui est possible ?» Vous, sur le site du Collège de France, sur la page de vos séminaires, de vos cours au Collège de France, il y a un dessin signé Albert Robida, qui était un illustrateur de la fin du 19e, c'est des gravures qu'il a fait. On voit une dame qui prend des cours par téléphonoscope. On a l'impression que ce dessinateur a déjà compris l'intérêt de l'éducation et des réseaux. Et c'était à la fin du 19e siècle, il avait illustré Rabelais par ailleurs. Et voilà, on est dans quelque chose qui est naturellement humain.
Alors on a donc quelque chose qui est naturellement humain, sur lequel il y a beaucoup de fantasmes qui traînent. Par exemple, L'humain est beaucoup plus complexe. Hein. Les gens disent le cerveau. Un ordinateur, ça s'appelait un cerveau électronique. C'était un très joli mot. Moi, je vais souvent dans les magasins demander s'il n'y a pas des cerveaux électroniques à vendre. Et bon, le cerveau, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une réflexion, je trouve, merveilleuse qui était faite par un petit enfant dans l'école où j'enseignais, qui devait avoir 7 ou 8 ans, qui me disait « Je ne comprends pas, à chaque fois que je joue contre l'ordinateur aux échecs, il gagne, mais ça n'a même pas l'air de lui faire plaisir. » Donc ça, c'est quand même une réflexion profonde. L'ordinateur et l'homme, c'est des choses complètement différentes. L'idée de l'ordinateur pensant, de l'ordinateur créateur, sont des idées qui sont perpétuellement repoussées dans l'avenir. Je pense qu'on a encore beaucoup de temps. Ça pose des questions. L'ordinateur, il y a une très bonne complémentarité entre homme et ordinateur. Un ordinateur, ça fait extraordinairement vite et totalement fiablement des choses absolument stupides. Un homme, c'est exactement le contraire.
Mais ce genre d'idée a créé une vraie mythologie dans l'intelligence artificielle. Justement, vous parlez de l'exemple des échecs, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis les années 40.
Les échecs, c'est fait. Ouais. Les machines jouent extrêmement bien aux échecs, mais ce n'est pas vrai pour d'autres jeux. Pour le Go, c'est beaucoup moins vrai. Il se trouve que pour les échecs, c'est fait parce que les échecs avaient déjà été étudiés sur un plan très systématique. Mais bon, il y a des tas d'autres domaines où ce n'est pas fait. Par exemple, la traduction entre langues est un problème extrêmement dur parce que même la compréhension d'une langue... Ça a été d'ailleurs un grand apport. C'est au début, les gens voulaient traduire les langues et après, ils se sont aperçus que pour ça, il faudrait peut-être les comprendre beaucoup mieux et que la notion de grammaire habituelle n'apprenait pas grand-chose sur les langues. Et maintenant, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la compréhension d'une langue. Et bon, mais ça, c'est des sujets très durs. Et l'aspect information donne des nouveaux points de vue sur des tas de sciences. Par exemple, les sciences deviennent numériques. En physique, les gens font des expériences virtuelles parce que c'est beaucoup plus simple de les faire qu'en vrai. Il faut toujours se méfier des résultats. Hein, les grands modèles climatiques sont des modèles numériques. Il faut toujours se méfier des résultats parce que les sciences de l'univers, par exemple, ont un défaut, c'est qu'on ne peut pas faire deux expériences. Hein. Donc, en physique, on peut faire autant d'expériences qu'on veut, si on veut, avec la matière, mais avec la Terre et le climat, l'histoire du réchauffement climatique, on ne va pas pouvoir s'amuser à voir si c'est vrai ou pas. Hein. Donc, c'est un gros problème. Mais les sciences deviennent numériques partout parce qu'avant, les sciences étaient mathématiques, base déduction, calcul fait par les hommes. Et maintenant, bien, l'ordinateur... où tous les dispositifs informatiques démultiplient le calcul dans des dimensions totalement nouvelles.
Est-ce que vous n'aurez pas réussi, Gérard Berry, quand finalement le numérique sera intégré dans chaque chaire du Collège de France et qu'il n'y aura pas besoin d'un cours spécifique ?
Alors non, je pense qu'il ne faut pas réussir. Il ne faut pas penser que le numérique va dominer le monde. Je pense que j'aime le théâtre, j'aime la musique, j'aime la création littéraire. Et le numérique, c'est une chose intéressante parmi des milliards d'autres. Et simplement, il faut le mettre à sa bonne place. C'est un démultiplicateur fantastique de l'activité humaine qu'il faut traiter en tant que tel.
Vous vous étiez fixé un objectif, Gérard Berry, pour cette année de cours au Collège de France. C'était d'aider à construire un bon sens informatique. Est-ce que vous pensez avoir réussi, en tous les cas, à donner des petites clés, des petits débuts de compréhension de cette science ?
Moi, je pense que ce que j'essaye de construire dans un cours, et je travaille beaucoup sur les rythmes dans les cours, c'est une alternance de points d'exclamation et de points d'interrogation sur la tête des auditeurs. Et je pense que construire un bon sens, ça consiste à ouvrir les phénomènes, à montrer les principes qui sont à la base de tous ces phénomènes, et que les points d'interrogation et les points d'exclamation deviennent plus des amusements que des craintes, hein, et qui s'organisent. Et donc je pense que, d'après les retours que j'ai des gens, oui, même sur les cours vidéo sur Internet, ce qui ne sont pas simples, j'ai reçu des lettres du monde entier, expliquant que les gens comprenaient que ça simplifiait beaucoup leur compréhension. Si c'est que ça, j'estime que c'était mon objectif. Maintenant, on n'est jamais sûr. Hein.
Depuis le début de ces cours, depuis le 17 janvier, Gérard Berry, il y a pas mal de choses qui ont changé aussi dans la manière de saisir le numérique de point de vue politique, par exemple. Il y a désormais un secrétaire d'État chargé du développement de l'économie numérique. Alors, est-ce que, en parallèle de vos tentatives de créer ce bon sens informatique et numérique, est-ce qu'il y a un bon sens politique par rapport au numérique ?
Il y a un changement. Je pense qu'il y a un changement. On voit les gens qui ont longtemps soit négligé le phénomène, soit se dire... On a beaucoup entendu, j'ai beaucoup entendu, c'est une mode qui va passer. Vraiment, longtemps, beaucoup. Tous les trucs antiques, toutes les choses antiques. L'informatique, la bureautique, la robotique, ça va passer.
Ce qui explique que ce ne soit pas enseigné dans les grandes écoles.
Non, maintenant, c'est enseigné. Hein, ce qui explique que ça ait mis du temps à y rentrer. Mais ce qui explique que ce ne soit pas enseigné dans les petites écoles, dans les écoles générales. Il me semble qu'il y a un grand changement. Les gens se rendent compte que le passage au numérique, c'est vraiment révolutionnaire au niveau des gens, au niveau de l'industrie. Ça bouleverse vraiment les rapports des professions. On a parlé du livre tout à l'heure, mais il y en a des tas d'autres. Bon, alors c'est évident dans le livre, le cinéma, toute la création, avec des problèmes vraiment sérieux de rétribution des auteurs, qu'il faut vraiment prendre au sérieux. La civilisation du gratuit est une civilisation qui risque de scier la branche sur laquelle elle est assise, donc il faut prendre ça très au sérieux. Il me semble que les gens comprennent la portée de la révolution et qu'il y a un frémissement sur l'idée qu'on y est pour quelque chose et qu'il vaut mieux y être pour quelque chose que d'être du côté des gens qui la subissent. Bon, on va voir. On va voir.
Gérard Berry, est-ce qu'il y aura une synthèse publiée quelque part de vos cours et des cours que vous avez organisés au Collège de France? Alors, une suite éventuellement d'ailleurs?
Je dirais que sur le global, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport au texte de la leçon inaugurale. Le texte est très différent de la vidéo. Le texte est beaucoup plus sérieux. La vidéo est vidéo. Donc j'ai essayé quand même, quand on a les gens en face ou même dans le réseau, on parle différemment. Mais je vais essayer de faire un livre donc technique, au niveau de technique qu'on appelle la vraie vulgarisation. C'est-à-dire, vulgarisation peut vouloir dire vulgaire, mais peut vouloir dire pour tout le monde. Donc la vraie vulgarisation, c'est-à-dire qui donne les bonnes idées, mais pas de façon compliquée. Donc c'est un défi assez dur, mais je vais essayer de m'y mettre.
Et que va devenir l'informatique ou que va devenir le numérique au Collège de France?
Ah ben ça, c'est une discussion interne au Collège. Je pense que le Collège sait que le sujet existe, etc. Mais le Collège évolue par l'assemblée de ses professeurs. Et la discussion existe, mais je ne peux pas du tout en parler.
Merci beaucoup Gérard Berry d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle donc toute la journée au Collège de France, c'est la dernière journée de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt que vous animez. Elle va continuer avec quelqu'un d'autre l'année prochaine, donc on ne sait pas encore. Et je rappelle pourquoi et comment le monde devient numérique. C'est votre leçon inaugurale qui est toujours disponible aux éditions Collège de France Fayard. Merci à vous.
Merci. Merci. Bonjour Bruno Patineau. Just say no, c'est le titre de votre chronique ce matin.
Eh bien oui, bonjour Caroline, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un défi. Le défi, c'est le nom d'une expérience qui est en train d'être menée à bien en Alsace, auprès de 259 écoliers d'un établissement de Neuhof à Strasbourg depuis le début de la semaine. Alors c'est le journal Le Parisien qui nous raconte l'histoire dans son édition du 19 mai. En s'inspirant d'une expérience déjà conduite aux États-Unis, pour ne pas parler de la journée sans télé, lancée il y a quelques années par le magazine Télérama, magazine qui m'est évidemment cher, l'idée est la suivante. Les enfants, scolarisés donc, âgés de 6 à 11 ans, vont devoir essayer de vivre 10 jours sans écran. Oui, 10 jours, ce qui semble aujourd'hui une éternité. Les enfants se voient donc remettre un carnet de bord dans lequel ils sont invités à noter leurs efforts, leurs succès et parfois sans doute l'échec de leurs tentatives. Il s'agit de vivre sans la télévision, sans Internet, sans jeux vidéo, sans écran de téléphone portable, jour après jour. Il est donc demandé, je cite, « de faire tout ce qui est humainement possible pour réussir le défi et compter les points gagnés contre l'écran ». Un jour de classe passé sans écran rapporte 5 points, un jour sans classe sans écran en rapporte 7. Et pour gagner ce fabuleux match, l'école doit arriver au total de 14 732 points pour les 250 élèves, soit 70% du total possible. Résultat donc, dans 10 jours. Il y a, me semble-t-il, deux idées qui sous-tendent cette expérience. La première, c'est que l'écran est une addiction. La deuxième, c'est qu'un écran, c'est juste quelque chose que l'on regarde, un véhicule pour les images, et que la qualité du rapport à l'image détermine la qualité du rapport à l'écran. Alors en premier lieu, la dépendance de nos enfants à l'écran. Que l'écran puisse être une addiction, qui en doute? Personne ne sait très bien combien de temps les enfants passent devant les écrans. Certains chercheurs parlent de 1200 heures contre 800 à l'école, mais devant la multiplication des écrans, leur omniprésence sur les objets de communication, les téléphones portables, les objets scolaires, l'utilisation du PC familial, voire de son propre ordinateur, les objets culturels, la télé, la console de jeu, les lecteurs MP3, est-il encore possible vraiment de décompter le temps que l'on passe devant les écrans? Nous ne sommes plus à l'époque où la lutte pour le temps disponible se déroulait, par exemple entre l'écran de télévision, l'imprimé du livre ou le temps libre de l'activité sportive. De plus en plus, une partie de cette lutte pour le temps disponible s'effectue entre les écrans eux-mêmes. Et il n'est pas sûr que l'addiction à l'écran de la télévision, celle de l'addiction au téléphone portable via le SMS ou l'addiction à l'écran d'ordinateur soit de même nature. Et au-delà de cette analyse, reste une question. Le sevrage est-il la meilleure façon de lutter contre un risque potentiel d'addiction? Et même si c'est le cas, est-ce vraiment à l'école d'enseigner les limites de l'utilisation de l'écran plutôt qu'à l'univers familial? Vous l'avez compris, on peut, à mon avis, émettre certaines réserves. Mais ces réserves sont plutôt modérées face au deuxième message véhiculé par l'expérience. Car la deuxième idée apparaît plus contestable encore. Elle dit que l'écran n'est que le simple véhicule des images et que nous sommes tous fragiles par rapport à ces images, animées ou non. Tout cela fleure bon la méfiance à l'encontre de la télévision. Mais est-ce vraiment le sujet en 2008? Est-ce cela vraiment le défi du rapport aux écrans pour les plus jeunes? Ce que je crois, c'est que les plus jeunes ne regardent pas l'écran, mais vivent dans l'écran, au travers de l'écran. Pour ceux que l'on appelle désormais les natifs du numérique, l'écran n'est pas un écran de télévision, un simple écran en deux dimensions qui retransmet une image animée. Le considérer comme cela est tout bonnement commettre un contresens incroyable. L'écran, depuis longtemps, est devenu un univers en trois dimensions. C'est ce qu'Umberto Eco appellerait une œuvre ouverte, non pas une œuvre que l'on regarde, mais une œuvre dans laquelle on se meut. La logique du jeu vidéo s'est imposée à notre univers numérique. On bouge dans un jeu vidéo, bien avant la Wii, on navigue sur Internet. On ne regarde pas un jeu, on ne regarde pas Internet. De même, l'écran de la messagerie instantanée, l'écran du téléphone qui sert à l'envoi de MMS ou de SMS, ça n'a rien à voir avec l'écran que l'on regarde. C'est une partie de soi-même. Du coup, priver les enfants d'écran pendant 10 jours, cela revient d'une certaine façon à les projeter hors du monde ou en tout cas hors de leur monde. C'est une expérience intéressante qui s'assimile à une retraite, mais ce n'est pas, à mon avis, une expérience qui les prépare, les éduque dans le rapport quotidien aux écrans. La vie n'est pas un match contre l'écran pour les natifs du numérique. C'est une vie où l'on bouge dans les écrans et il faut donc leur apprendre à se mouvoir au mieux dans ces écrans en préservant leur liberté, leur libre arbitre, leur personnalité et leur intimité. C'est là le vrai défi. Que l'école intervienne pour leur apprendre à vivre une courte période sans écran semble désormais moins important que l'apprentissage de la maîtrise des écrans, bien au-delà d'une maîtrise technique.
Merci Bruno Patino et à vendredi prochain.
Place de la Toile, c'est terminé pour ce matin. L'émission a été préparée et coordonnée comme chaque semaine par Yaël Mandelbaum. À la prise de son ce matin, Emmanuel Rose. À la réalisation, Doria Zénine. Liens, bibliographies, commentaires, écoutes en ligne et podcasts, tout ça, vous le trouvez sur le site de Place de la Toile, sur franceculture.com. Et puis, il y a toujours la page Facebook de Place de la Toile.
On se retrouve lundi pour l'économie en question à 11h. Lundi portera sur le stress au travail, un grand problème de santé publique. Je vous souhaite malgré tout un très bon week-end à tous. Merci d'être à l'écoute de France Culture. Il est 11h58.